Bonjour, donc nous allons commencer cette rencontre autour de la question de savoir si la machine peut faire de la littérature. Donc j'ai le plaisir d'accueillir pour cette discussion Milad Douéhi, tout au fond, enfin par rapport à moi en tout cas, qui est donc historien des religions, titulaire de la chaire d'humanisme numérique à l'Université Paris-Sorbonne, Raphaël Granier de Cassagnac, qui est là, qui est physicien des particules, qui travaille au CERN et écrivain. Et donc, je pense que c'est donc, peut-être un peu plus à ce titre aujourd'hui que nous l'avons pour cette rencontre. Olivier Paquet, qui est docteur en droit, en sciences politiques et surtout écrivain de science-fiction. Il a reçu notamment le Grand Prix de l'Imaginaire en 2003 pour Synesthésie et plus récemment le prix Julia Verlanger pour la trilogie Melkin. Pardon ? J'ai dit une bêtise ? Claude Ecken, à sa droite, qui est auteur de romans, de nouvelles, de critiques, de scénarios, de BD, et qui a aussi reçu le Grand Prix de l'Imaginaire en 2006 pour son recueil de nouvelles « Le monde tout droit réservé ». Et voilà, et la dernière personne que je présente, Anne Leckie, qui est donc auteure de science-fiction américaine, et qui nous fait l'honneur d'être ici et qui a reçu, donc, je me demande si ce n'est pas un cas tout à fait unique, les trois grands prix anglophones, le prix Hugo, le prix Nebula et le prix Arthur C. Clarke pour le premier tome, hein, je pense, de la trilogie qui s'appelle « La justice de l'ancillaire » et qui a été suivi donc, par deux autres tomes qui sont publiés cette année. Alors il y a l'épée de l'ancillaire et la miséricorde de l'ancillaire. Voilà, donc je vous remercie et donc maintenant on va commencer après cette présentation de nos nombreux invités le débat ou en tout cas la conversation que nous allons avoir sur la question de savoir si la machine peut faire de la littérature. Alors peut-être avant d'attaquer directement cette question, j'aimerais savoir, puisque nous avons parmi nous un certain nombre d'écrivains, si vous avez dans vos œuvres une machine qui fait de la littérature. Je n'ai pas lu toutes vos œuvres, donc c'est une vraie question naïve. Voilà, qui veut commencer, Olivier ?
Oui. En fait, j'ai un texte qui est directement dans le sujet de la table ronde, puisque le titre, c'était « L'IA qui écrivait des romans d'amour ». Donc, directement. Alors, juste pour expliquer l'enjeu, c'était que j'avais une intelligence artificielle qui était dans un laboratoire, en fait, pour faire simple, et qui était dédiée à terme à être dans le trading haute fréquence. Et donc avoir de l'analyse de cours, de bourse, etc. Sauf que dans un petit coin de sa conscience informatique, sachant que c'était une intelligence biomimétique, c'est-à-dire à la fois silicium organique, il y avait tout un aspect là-dessus, elle avait une part créatrice et elle utilisait tous les romans Harlequin qu'on lui avait donnés pour créer un roman. C'était sa création d'un roman Harlequin, un roman d'amour. Et en fait, on se rendait compte aussi que elle traduisait le rapport qu'elle avait avec son créateur, son chercheur créateur, dans les romans qu'elle écrivait. Et alors évidemment, le twist final, c'est-à-dire que du fait de cette programmation-là, elle devenait moins bonne dans son trading haute fréquence. Et donc, comme c'était des crédits de recherche, on devait la faire mourir. Donc c'était une tragédie à la Harlequin. Et donc, dans son dernier mouvement, elle envoyait son manuscrit à tous les éditeurs possibles. Sauf que, évidemment, les éditeurs disaient « Ah ben non, mais en fait, ce qu'on voit, c'est une sorte de synthèse de tous les romans Harlequin, et donc ne l'éditez pas. »
D'accord. Et est-ce que... en quelle année vous avez publié ce texte ?
Alors, c'était dans la revue Angle Mort, donc c'était en numérique. Ouais. Alors,
à peu près.
crois, je sais pas, 2012 ou 2013.
D'accord. Chose comme oui, ça. C'est relativement récent. Alors, on va, je pense, à un moment parler des logiciels qu'on essaye de mettre au point aujourd'hui, en ce moment, pour produire ce genre d'œuvre. Et voilà. Enfin, du coup, peut-être que je peux même directement. Est-ce que vous vous êtes inspiré ou dans quelle mesure vous vous êtes inspiré de travaux de recherche actuels sur le sujet?
Alors, d'aucuns. Mais ce qui, pour un auteur de science-fiction, c'est quand même assez sympa, c'est que quelques années plus tard, j'ai appris que Google donne à ses intelligences artificielles, alimente ses intelligences artificielles avec des romans d'amour sentimentaux. Donc, finalement, sans avoir lu, je pense qu'il y avait de la documentation, mais ça ne m'était pas nécessaire dans le texte tel que je l'avais fait, mais je me suis aperçu qu'en fait, j'étais un peu... la réalité m'a rattrapé, en fait.
Raphaël ?
Oui, alors, moi, dans mes romans, il y a des machines qui font un peu tout et n'importe quoi, donc pourquoi pas de la littérature ? Mais justement, non, en fait, puisque je pose un présupposé auquel je ne crois pas forcément dans le vrai monde, d'ailleurs, qu'à un moment, l'intelligence artificielle va bloquer sur un truc fondamental qui relève de la conscience, et que donc elles ne pourront pas être douées de conscience, et donc ce sera sans doute difficile pour elles de mettre de l'émotion authentique et des choses comme ça dans de la littérature. Mais encore une fois, je crois pas forcément que ça arrive dans le vrai monde.
D'accord. Alors, je trouve ça vraiment intéressant comme remarque, parce qu'en fait, vous suggérez que... Parce que justement, on pourrait dire au contraire, un auteur de science-fiction va se permettre une hypothèse, disons, généreuse, qui consiste à admettre la possibilité de la conscience dans une fiction qu'on n'admettrait peut-être pas aussi facilement dans la réalité. Et vous, vous avez l'air de dire que vous fonctionnez à l'inverse.
J'ai fait l'inverse pour une très bonne raison qui spoilerait tous mes romans si je la disais ici. Mais non, j'avais besoin de limiter les intelligences artificielles pour donner de la place à autre chose, en fait, qui là, pour le coup, est assez audacieux. Et j'utilisais généreux, c'est ça, oui, très généreux dans mon hypothèse fictionnelle.
D'accord.
Cela dit, j'ai une intelligence artificielle qui développe des problèmes de langage, donc ça parle un petit peu avec ça. Elle a des idiosyncrasies, elle n'arrête pas de dire si tu préfères. C'est-à-dire qu'elle dit quelque chose aux humains, et comme les humains, elle a toujours peur que l'humain ne comprenne pas, que le langage de l'humain ne soit pas exactement le langage qu'elle a elle. Donc elle dit toujours un deuxième truc pour essayer de préciser ce qu'elle dit.
D'accord. Claude, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Je suis un petit peu comme Raphaël. J'ai l'impression que si l'on donne la conscience aux intelligences artificielles, on change de registre. Ça y est, elle est consciente, donc l'altérité se dissipe un petit peu, s'efface. Et à ce moment-là, est-ce que l'on peut parler de machine à faire de la littérature ? Non, c'est plus du tout le cas. Moi, la première machine à faire de la littérature que j'ai rencontrée à ce jour, c'est Google Trad. Vous faites des traductions les unes à la suite des autres, c'est une très grande littérature, c'est vrai. Le gros problème de la littérature comme ça, bon, il y a des générateurs de littérature qui sont intéressants. Vous avez au départ de la littérature faite par des humains de manière un petit peu mécanique. Je dirais toutes les expériences de l'Oulipo. Je pourrais citer 100 000 milliards de poèmes. Je pourrais citer la vie mode d'emploi de Pérec, de Queneau pour les poèmes, évidemment. Mais à ce moment-là, la machine est maintenant capable, à partir de certains algorithmes, de phrases toutes simples, de générer du texte. Elle génère du texte. C'est très bien pour nous, mais ça n'a aucun sens pour la machine. C'est nous qui mettons le sens, de la même manière qu'un générateur de musique ou qu'un générateur de peinture nous fera peut-être des œuvres très belles, mais il n'y a que l'humain qui sera capable de l'interpréter.
D'accord. Anne, non ?
Yeah. I think that's a really interesting point. There are, as you say, neural nets that are predictive text generators, and so you feed them enough text and request an output, and it will look at the patterns in the text you give it and produce something that has very similar patterns. But the results are very often things that make people laugh very hard because the sentences look plausible, all the words are the right words, but they make no sense whatsoever. And it's so familiar and so bizarre at the same time. And this happens, of course, because the machine is not producing sentences because they mean something the way that we usually would. They're they're producing sentences that match certain patterns. And there are tons of patterns that just don't mean anything. And some of these are very hilarious. This year, Sci-Fi London holds a 48-hour film contest where they give all the people entering a certain number of things. Your film has to have this in it, these couple of things. And then they say, now you have 2 days. Go out and make a short film. And so one team actually fed the scripts of a lot of science fiction movies and science fiction television shows into one of these predictive text generators, and it produced a screenplay for them, which they then went and filmed. And it's completely bizarre and hilarious, but it makes no sense whatsoever. It got a special mention. The judges said, we don't know what this is, but it's so strange, we have to acknowledge it somehow, right? But that's where that is. And until you have a machine that is going to acknowledge meaning, which is going to be a very different order of machine from what we're used to, we're not going to have anything but these weird pastiche pattern-based texts, I think.
Raphaël, vous voulez ajouter quelque chose? Je vous en prie.
Oui, mais moi j'ai de l'espoir là-dedans. Pour moi, la réponse à la question « la machine peut-elle faire de la littérature ?» c'est qu'on ne sait pas et qu'il faut essayer, quoi. Et c'est un peu ce qu'ils ont fait pour le... Et moi, j'ai envie de générer autant que possible des expériences comme celle que vient de décrire Anne, et en littérature en particulier. Et je pense qu'il y a une certaine poésie qui peut en sortir de là. C'est un peu ce que tu disais avec des mots différents. Je pense qu'il y a une espèce de... Précisément parce que c'est quelque chose qui vient pas du commun des mortels, en l'occurrence ça vient d'une machine. J'ai vraiment l'espoir qu'un jour, et c'est peut-être déjà le cas, les machines vont nous donner des textes à lire qui vont avoir leur propre poésie, une espèce de poésie numérique. Alors le sens sera peut-être pas au rendez-vous parce qu'il faut un processus plus compliqué pour obtenir le sens, mais la poésie, je pense qu'elle est là, quoi.
Mais là, en fait, il y a aussi le problème, c'est qu'est-ce que la littérature ? C'est-à-dire qu'on va remonter la chaîne jusqu'au bout et on n'est pas fini.
Mais je vous en prie. Alors non. Milad,
oui, moi j'ai un point de vue peut-être un peu différent, parce que je suis pas auteur, effectivement, que je me permets un petit peu dans la fantaisie, mais en rebondissant, je dirais, ce qui est intéressant, on va pas se poser la question qu'est-ce qui fait la littérature, parce qu'elle va nous amener très très loin, c'est pas l'objet de notre échange aujourd'hui, mais plutôt imaginer que les machines écrivent pour un autre public qui sont les machines. Non pas pour les humains, avec nos valeurs, nos sens, nos préjugés et nos attentes. Et là, peut-être, il y a autre chose. Un petit peu, j'interprète à ma façon. Et là, effectivement, on a beaucoup de modèles de la lecture automatique qui est aujourd'hui extrêmement puissante avant l'écriture automatique, et ainsi de suite. Mais au-delà, surtout, il me semble intéressant de comparer les exercices qui ont été faits par Oulipo et d'autres avec la génération automatique de texte, avec ce qui a été fait déjà dans les années 50 en Allemagne, avec des logiciels qui ne sont pas seulement des permutations, mais d'essayer d'imaginer une certaine poétique qui émane du code avec ses capacités. Je crois peut-être qu'on peut s'approcher où le public, dans la manière dont le public à la fois fait sens et fait quelque chose avec le littéraire, ne soit plus le public humain, mais plutôt ce qui est quand même pervasif et un peu partout. Dans ce cas-là, effectivement, les modalités de la valorisation littéraire peuvent changer, en tout cas évoluer, pour s'adapter à quelque chose. C'est juste un exercice de ce point de vue-là.
Ce que tu veux dire, c'est que peut-être demain, la table ronde, il y aura des robots ici qui se demanderont si l'homme peut faire de la littérature.
Leur littérature.
Ou alors qu'il aura le prix.
Ah, mais sur les prix littéraires, je rappelle qu'il y a un concours de littérature japonais qui est ouvert aux intelligences, aux machines.
Et il y a d'ailleurs...
Il y a une nouvelle qui a passé le premier filtre.
Alors, si tu me permets, ouais, on peut rebondir là-dessus parce que j'ai regardé ce cas-là un peu de près. Donc c'est vrai, c'est cette année, là, le concours, c'est ouvert aux non-humains, en fait. Hein. Si un extraterrestre propose, c'est permis aussi.
Voilà.
Et donc cette année, il y a un groupe universitaire qui a fait participer une machine à ce concours. En fait, la machine, elle n'a pas écrit une grande partie du roman. Si j'ai bien compris, le roman a été écrit par des gens avec plusieurs options possibles, et la machine choisissait un peu les options en analysant un pattern. Et donc, les gens disent qu'elle a écrit genre 20% du roman. Effectivement, elle était présélectionnée. Puis quand on en lit des extraits, il y a cette forme d'un peu de bizarrerie, peut-être de poésie dont on parlait tout à l'heure.
Alors, Anne, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Yeah, I think the point about who the audience is a really interesting point, because the writer might mean or not mean a thing, but in the end, how the reader responds is another place where meaning is, and in some ways is more important than what the writer meant. So if you have an audience composed entirely of machines, we might never know that there's meaning there because we don't have access to that experience. And similarly, as you say, there would be machines having a round table going, I don't know, do they understand things? Do they think? We don't know, right? They're just out there doing things that we don't understand, right?
Moi, ça me fait penser, en fait, là, cette idée qui a été introduite par Mila Douéi et votre rebond. Ilium, voilà, de Dan Simmons, il y a précisément des intelligences artificielles qui s'appellent plus précisément des Moravec, d'après un personnage historique, une personne qui a joué un rôle dans le développement des intelligences artificielles et qui passe un temps assez considérable dans le roman à se disputer les mérites comparés de Shakespeare d'un côté et Proust de l'autre. Alors, ce n'est pas exactement ça, puisque là, elles discutent d'œuvres humaines.
Ils sont des critiques littéraires, on va dire. Oui. Pour aller vite, mais vous avez raison de l'évoquer. Hein. Oui. Mais on a d'autres précédents, même si je me rappelle très bien, dans La Fondation, il y a certains passages chez Asimov, entre les deux classes de robots, des discussions sur le statut du langage, de la manière dont on fait sens et comment ça va jouer dans les choix et les décisions dont ils ont la responsabilité. Je crois qu'il y a toute une tradition quand même qui date, on peut aller plus loin, mais c'est intéressant. Moi, par contre, ce que je trouve aujourd'hui, parce qu'effectivement, on a des logiciels qu'on peut évoquer qui génèrent du texte, qui peuvent publier des dépêches de la presse, mais qui font parfois de la littérature, entre guillemets, ça reste à voir. C'est aussi d'essayer d'imaginer, parce que quand même, on vit dans une ère, et on a tendance à l'oublier, de lectures automatiques énormes. Google et tout ce qu'on a ne cessent de lire. C'est des machines à lire avec une capacité, une voracité impressionnante et qui lit d'une façon complètement différente et qui modifie nos lectures à nous également. Je crois là, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, en tout cas, en fonction de cette imposition, en quelque sorte parfois, de ces formes de lecture automatique.
Raphaël, vous vouliez réagir?
À l'œil. Hein.
Parole d'abord à vous. Voilà,
il y a une autre chose qui évolue aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez eu la même expérience que j'ai. Moi, des fois, je sens vraiment que quand j'écris, je suis assisté par ordinateur dans une certaine mesure. Il y a évidemment la recherche Internet qui a changé pas mal le regard, la façon dont un écrivain prépare ce qu'il écrit. Et même, de plus en plus, je tombe sur des phrases premier jet bancales, et en fait, j'ai un logiciel qui s'appelle Antidote, plein d'entre nous l'ont.
Oui, Antidote, voilà.
Et qui propose, par exemple, il y a un dictionnaire de citation, il y a des choses comme ça, mais il y a surtout un truc qui s'appelle les co-occurrences, donc il sait, dans la langue française, la probabilité que deux mots apparaissent l'un à côté de l'autre, et donc, il m'arrive souvent de mettre un verbe et un nom, puis de me dire, mais c'est pas le bon verbe, c'était quoi le bon verbe? Et puis alors, plutôt que d'aller dormir et puis d'y repenser le lendemain et tout ça, je regarde sur Antidote et je trouve la réponse. Donc, on est au balbutiement de ça, hein, mais bon. Dans une certaine mesure, l'homme écrit assisté par ordinateur petit peu.
Juste quand même pour modérer un peu. Avant, il y avait quand même les dictionnaires d'analogie, hein, qui permettaient d'obtenir des résultats comparables. Donc, Antidote ne fait que réutiliser la langue et on a le Grévis, on a des outils papier qui faisaient le même travail, sauf que ça permet de le systématiser et d'aller plus vite, mais
de l'automatiser. Voilà. Ouais.
Vous vouliez ajouter quelque chose?
Non, mais si on écrit à la main, on n'a pas ce problème. Non, mais je suis et moi j'écris à la main, moi je fais pas de romans. Je passe tout mon temps autrement à travailler avec les ordinateurs pour autre chose, mais en fait quand j'écris à la main, et du coup j'ai pas le problème avec l'autocomplétion, l'autocorrecteur, l'autosuggestion, et c'est assez frappant quand je lis les travaux, et parfois on le sent, dans certains cas académiques en tout cas, ça se voit très très vite, c'est assez intéressant, l'influence quand même qui voilà, c'est juste
mais ça c'est très, moi je trouve que c'est très intéressant, on parle de la littérature. Il se trouve que moi j'ai commencé à écrire à la main, ensuite je suis passé à la machine à écrire mécanique. Donc on tape ça fait un boucan du diable, la machine à écrire mécanique électrique, et ensuite à l'ordinateur. Et pourquoi l'ordinateur? Parce qu'en fait, l'ordinateur me permet de frapper à la vitesse, d'écrire à la vitesse à laquelle je pense. Alors que l'écriture à la main, c'était trop lent, en fait. Pourquoi on change ? Parce qu'on essaye de trouver la technique, l'instrument qui permet d'aller à la vitesse de son esprit.
Il y a un autre effet, c'est que lorsque l'on écrit à la main, on peut se permettre de commencer une phrase et de raturer, puis d'aller dans une autre direction, d'enlever la relative, et puis d'aller ailleurs. Alors finalement, on écrit entre les marges, on écrit sur le bord, et puis ça devient un tel brouillon, un tel fouillis, que l'on est obligé de recopier au propre. On passe beaucoup de temps. Si l'on fait des recherches dans les archives, ça m'est arrivé de mettre des mouchoirs autour du doigt, parce qu'à force de tenir le stylo, une semaine à la suite, 10 heures d'écriture non-stop, je n'en pouvais plus. Donc le clavier génère d'autres choses, mais lorsqu'il y avait une machine à écrire électrique, le problème, c'est qu'il faut penser sa phrase dès le départ pour ne pas se tromper. Si on se trompe, eh bien, y avait le blanc, on attendait qu'il sèche, on était un peu impatient et ça fait un gros sproch. Et puis, c'est terminé. Ensuite, on a découvert les bandes autocollantes qui permettaient de mieux écrire. Et l'ordinateur a remplacé tout ça. Du coup, ça a rallongé aussi l'écriture des textes. Les romans sont devenus plus longs parce qu'il n'y avait pas de repentir à faire. Lorsqu'on avait oublié de dire quelque chose, on pouvait rajouter la phrase au bon endroit. L'ordinateur, pour moi, et surtout les recherches à la souris, génèrent des tendinites et des problèmes au cervical. Donc maintenant, j'utilise la tablette. Et avec un clavier Google qui me permet de relier les lettres entre elles, c'est comme si j'étais en train d'utiliser une écriture manuscrite combinée à l'écriture au clavier. Et là, je vais deux fois plus vite. C'est maintenant peut-être la nouvelle génération.
Ce qui est intéressant, c'est avec le passage vers le tactile, on va retrouver le cursif. Je crois que c'est très, très, très passionnant. Moi, j'ai étudié ça parce que c'est assez intéressant, surtout avec les mutations dans les formes d'écriture, que ce soit en forme brève ou longue. Le retour vers le tactile avec le cursif, ça modifie radicalement avec le temps, évidemment. C'est quelque chose d'assez intéressant. Moi, je suis entièrement d'accord avec ce que Minatour dit. C'est... la matérialité, quand on tape ou qu'on touche ou qu'on utilise le cursif, modifie notre rapport avec, entre la main et l'écriture, en tout cas. Ouais.
Raphaël.
Non, je voulais faire une blague, en fait. Vous voyez qu'avec la tournure que prend le débat, en fait, les hommes reprennent le contrôle. C'est nous qui écrivons, on vient bien de vous le dire, ce ne sont pas les machines.
Non, mais moi, je trouve ça effectivement très intéressant parce que, en fait, nous avons ici des écrivains, même si ce n'est pas tous des écrivains de fiction. Et pour réfléchir à la question de savoir si la machine peut faire de la littérature, effectivement, la conversation a un peu dévié sur votre expérience corporelle en tant qu'écrivain. Et c'est une question qu'on n'a pas abordée et que parfois on oublie d'aborder quand on parle d'intelligence artificielle et qui, moi, me paraît en fait très importante pour comprendre ce que c'est que l'intelligence. C'est peut-être en tout cas le rôle absolument fondamental du corps et de l'interaction qu'il y a entre le corps et la pensée. Milad.
Non, mais c'est absolument, je suis entièrement d'accord. Là, je vais vous donner deux citations, passer après la parole à mes collègues. Dans le cas français classique, avec l'objet littéraire, c'est Flaubert. On ne peut pas penser et écrire qu'étant assis. La réplique va venir de l'autre côté de l'Allemagne, de Nietzsche. Non, 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 vous vous trompez. On ne peut pas penser et écrire qu'en marchant. Et c'est vraiment la culture assise, la culture de l'écriture et la culture ambulante. Et ce qui est intéressant avec le numérique, on a commencé assis. C'était énorme, l'écran, le truc. Aujourd'hui, on est hybride pour ne pas dire ambulant. Et on est entre ces deux rapports assez intéressants. Voilà.
Anne, non ?
Moi, je peux Olivier. Continuer sur le ambulant, c'est vrai, et les machines, c'est encore important, parce que moi, j'écris sur un ordinateur portable. Et l'un des lieux où j'adore écrire, c'est dans le train. Et parce qu'on est dissocié du monde, isolé, et qu'on est tranquille. Il n'y a personne qui va vous embêter avec des emails, etc. On est coupé, on est tranquille. Et avec le train qui a un rythme, etc. Donc, effectivement, on est des écrivains nomades, en fait, grâce à ça.
Non mais c'est vrai, moi je suis une grande utilisatrice du train et je suis complètement d'accord, alors c'est peut-être la magie des TGV, mais il y a aussi quelque chose d'important, il me semble, dans le plaisir, disons, de travailler et donc pour moi aussi d'écrire dans le train, c'est le paysage qui défile, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'immobilité totale, on est isolé, mais il y a aussi quelque chose de mobile et en général en plus de plutôt joli qui est le paysage, et du coup on retrouve en fait cette ambularité, c'est-à-dire qu'on a le côté ambulant tout en pouvant tout en étant assis.
Donc la question devient, le train fait-il de la littérature, c'est ça?
Alors on est un peu dans la question de la machine.
J'aime bien ce que tu as dit par rapport au fait que l'on soit obligé de parler de nos propres pratiques d'écriture, puisque à partir du moment où se développe une littérature générative combinatoire et que l'on essaye de faire de la cyberlittérature dans à peu près tous les domaines, il y a de grandes expériences qui se font en ce moment au Brésil, en Espagne, au Mexique et puis en France également, avec, je ne sais pas, Alamo, c'est une expérience d'écriture. Si jamais l'ordinateur pourra vraiment écrire de la littérature, nous serons obligés de reconsidérer nos pratiques d'écriture de la même manière que les peintres au XIXe siècle ont été obligés de repenser la peinture par rapport à la photographie. Voilà. Et donc ça, c'est quand même un défi que peut nous lancer l'écriture par ordinateur.
Milad, vous vouliez ajouter quelque chose?
Non, je ne sais pas. Je ne sais pas, juste en écoutant, je suis rappelé le titre d'un très beau livre d'un grand informaticien, Donald Knuth, qui est un spécialiste des algorithmes, mais qui a fait un très beau livre qui s'intitule en anglais « Literate Programming ». Ce qui est intéressant, c'est sur la notion de « literate ». C'est à la fois « literacy », mais c'est aussi « lettré ». Il insiste énormément sur ce double sens du mot, et il me semble, dans le travail de la machine interne, quasi autonome, il y a quelque chose, à cause de la nature du code informatique, de cette double dimension qui peut être à la fois lettrée et en même temps une forme de compétence dans le sens de literacy. Et je crois que c'est assez intéressant d'imaginer des modalités de production de textes qui peuvent accéder au statut littéraire pour nous, qui vont émerger de ces dimensions-là qui ne sont pas strictement dans le comparatif avec les figures canoniques qui sont pour nous de littéraire. Et là, je crois qu'on change de registre, parce qu'on n'est pas très loin quand même quand on regarde de près ce qui est en train d'être produit.
Alors, le fil de la conversation m'a aussi fait penser à quelque chose. À un moment, Proust parle de son expérience de lecteur, et même de jeune lecteur, et il pointe le fait que quand on lit, on n'est jamais totalement immergé dans l'univers de lecture. L'exemple qu'il donne, c'est plus précisément un livre de George Sand. J'ai oublié le titre là tout de suite. Et il rappelle que son expérience de lecture inclut son expérience de personne, et qu'il y a toujours une correspondance entre ce qu'on vit et ce qu'on lit. Et en fait, là, ce qui était intéressant dans ce que vous racontiez, c'est qu'on retrouve en fait cette dimension-là, donc le côté expérientiel, à la fois, donc non seulement dans l'expérience de lecture, mais aussi dans l'expérience d'écriture. Et on peut se demander, pour revenir quand même au sujet, si la machine peut-elle faire de la littérature. Alors c'est vrai que de programmer des machines, c'est extrêmement compliqué, et on n'est pas prêt d'y arriver quand on voit le robot d'hier soir. Je ne sais pas si vous avez pu voir un petit peu Pepper, mais il y a toute cette dimension, même si on n'arrive pas à la conscience dont on a parlé au début, mais il y a toute cette dimension d'une expérience qui peut-être participe de la possibilité d'une créativité. Et tant qu'on n'aura pas cette dimension-là, peut-être qu'on n'arrivera pas véritablement, parce que même si là, du coup, je fais un petit raccourci, je pense que la question, en fait, qui est derrière la machine, peut-elle faire de la littérature, c'est la question plus fondamentale de la machine peut-elle créer.
Oui. On peut être d'accord sur la conscience, qu'on va mettre en parenthèse, parce que c'est une question impossible à résoudre, en tout cas, dans les réponses. Mais il me semble la question, pour essayer de traduire dans le sens de la machine, on sait très bien que la machine peut apprendre. Elle a des capacités d'apprentissage, supervisées, non supervisées, peu importe. La question qu'il faut se poser, est-ce que cet apprentissage peut constituer quelque chose, pour reprendre votre terme, du vécu, pour que ça puisse nourrir, alimenter, donner lieu à quelque chose qui sera non pas seulement du texte dans le sens banal et presque vulgaire du terme, mais plutôt quelque chose qui peut être comme un objet littéraire. Et là, c'est une vraie question. Et à mon avis, aujourd'hui, on commence à s'approcher du début de ce que ces formes d'apprentissage peuvent produire. Mais je crois qu'il y a des gens plus peut-être compétents que moi parler de ça.
Moi, je ne suis pas compétent, moi j'imagine, donc c'est sur ces deux domaines-là. Mais quand tu disais ce que tu disais là, il y a une question d'information, en fait, parce que donc, l'apprentissage se fait sur une base d'information, et là je pense que les machines auront beaucoup plus, enfin ont déjà beaucoup plus d'informations à leur disposition que nous. Donc la question, c'est pas est-ce qu'elles auront un environnement, est-ce qu'elles seront dans un train. Elles sont dans plein de trains en même temps, en fait. Elles ont accès à une information qui est énorme. Et d'ailleurs, moi, dans mon roman, mes intelligences artificielles, je les mets dans des mondes virtuels qui ressemblent aux nôtres, parce que je ne veux pas les faire se déplacer parmi nous parce qu'elles pourraient être dangereuses. Mais, donc je les fais grandir dans des mondes virtuels dans lesquels il y a de l'information. Donc je pense qu'on revient à la question fondamentale de la conscience, en fait. C'est-à-dire que tout ce qui est informationnel et apprentissage, ça, à mon avis, ne pose pas vraiment de problème. La question derrière, c'est au cœur de ce qu'est une intelligence artificielle, une machine, qu'est-ce qu'elle peut en faire, quoi.
Oui, mais la réponse qui est donnée aujourd'hui, si je ne m'entends pas, c'est essayer de séparer conscience d'autonomie et de donner à l'autonomie un statut qui permet d'accéder à des formes que nous, on a souvent, pour ne pas dire toujours, associées à des consciences. Alors, est-ce que c'est une vraie réponse? J'en sais rien. Mais on est dans ce divorce, si j'ose dire, entre des formes d'autonomie, ouais, de la machine, de l'intelligence artificielle, du robot, qui peuvent impliquer des responsabilités, comme aussi certains privilèges qui peuvent être de littéraire. Et je n'ai pas de réponse, mais je crois qu'ils ont opté parce que la conscience reste quelque chose de plus difficile, pour ne pas dire impossible pour l'instant.
Tu posais la question de ce qu'une machine peut créer. Dans une certaine acceptation du mot créer, oui, évidemment. Quoi. Enfin, c'est ce que 1 plus 1 égale 2, tu as créé quelque chose.
C'est ce que je veux dire. Il faudrait éviter d'imaginer que ce qui est créatif, c'est la haute littérature. Il y a beaucoup de ce qui est créé dans le monde par des humains. Une machine pourrait le faire. Dans le sens, voilà, c'est... Pourquoi d'ailleurs dans ma nouvelle j'utilisais les romans d'amour? Parce que les romans Harlequin ont des canevas extrêmement précis et donc ceux qui les écrivent doivent les suivre. C'est pour ça qu'il y avait un aspect assez automatique. C'était pas un hasard, j'ai pas choisi de dire l'IA écrivait du Proust ou il y a l'irréductibilité, mais il y a beaucoup. On peut très bien avoir des machines qui vont créer des œuvres de consommation.
On est dans une littérature formatée, tout à fait. Donc,
mais alors, juste, mais là où je vous suis pas tout à fait, c'est que est-ce que dans le récit dont vous parlez, est-ce que l'intelligence artificielle soumet sa production aux éditions Harlequin?
Ah oui, non, mais c'était tous les éditeurs, donc.
Et pourquoi Harlequin n'accepte pas?
Bah parce que en fait c'est un nouvel auteur et que des auteurs qui font pareil, ils en ont plein avec un contrat et donc c'est pas la peine de chercher un autre. Il y a rien de différent qui va faire
donc, que si tu dis il y a rien de différent, c'est bien que il manquait quand même ce petit plus.
Oui, mais
qu'on attend d'un nouvel auteur malgré tout et qu'on peut mettre du côté de la création.
Oui, mais qu'on attend d'un nouvel auteur même humain. C'est-à-dire qu'un éditeur reçoit ce qu'on appelle la Schlossspiel, enfin des tas d'auteurs qui, en fait, des auteurs débutants qui écrivent des choses que tout le monde peut lire. Donc un éditeur ne va pas... Comme lancer un nouvel auteur, ça coûte cher pour un éditeur, donc il faut que cet auteur ait une particularité. Sinon, pour faire de la littérature de consommation, il y en a plein avec des prête-noms et ce n'est pas la peine d'en promouvoir un autre.
Alors cela dit, là, dans ton univers de fiction, on aurait pu imaginer... parce que c'est ce qui se passe dans la vraie vie, en fait. C'est, on a désormais une intelligence artificielle qui est capable de produire des romans Harlequin. Bah, on va licencier tous les auteurs qu'on a à disposition,
voilà,
et maintenant on aura plus de machines.
Justement, elle avait envoyé son texte sans dire qu'elle était une intelligence artificielle.
Aucune surprise depuis les machines à tisser. C'est la suite logique des choses. Je sais pas, je peux peut-être donner des exemples de la littérature générée par ordinateur. J'en ai relevé deux qui m'amusaient un peu. Bon, je ne vais pas parler du texte de Shinichi, je crois que c'est toi qui l'as évoqué, puisqu'il n'y a que 20% que ça a été un petit peu retravaillé. Mais en juin 2016, donc c'est tout récent, Max Deutsch, une entreprise de logiciels, avait fait écrire une suite de Harry Potter en mettant quatre romans là-dedans. Et donc, ça a été une base pour une possible écriture d'une suite à Harry Potter, c'est-à-dire qu'on n'a pas... ce n'est pas le texte final qui a été généré. Alors, voici les phrases un petit peu curieuses que ça a sorties. Harry se remit à collectionner les doigts. Dumbledore sortira de derrière un gâteau à la crème. Groin cochon, s'inclinèrent-ils au retour du cabinet au-dessus de la table. C'est exact, dit Harry avec désinvolture. Par contre, les travaux de Jean-Pierre Balpe, qui est un écrivain et un chercheur dans la relation entre la littérature et l'informatique a écrit avec un ordinateur un roman inachevé où là, je trouve que les phrases sont quand même assez troublantes. Donc, je vous donne un autre extrait. Béatrice se souvient. Son souvenir est essentiellement linguistique. Elle ne se souvient ainsi que de peu de choses. Et elle n'est plus tout à fait sûre d'avoir vécu. Divers mondes se mêlent dans son esprit, créant des confusions de plans et d'espace. Elle a le cerveau plein d'indignation et de fureur. Elle doit faire la part des choses. Il lui semble que sa tête est pleine de confusion, de bruit, que le trouble des événements qui l'entourent perturbe sa faculté de penser normalement. Ici et ailleurs lui sont la plupart du temps interchangeables. D'autres se roulent dans le passé comme dans une fange lourde et infecte. Elle fouille en vain son souvenir. Passé et présent lui composent un présent unique, trouble, voilé. Quelque chose lui revient soudain en mémoire. C'était une fin de matinée, une scène plus précise que les autres, dans une pièce blanche, peut-être en avril, un personnage, Eugene, déchiré. Il lui semble l'avoir déjà vu, elle ne parvient pas à se souvenir où, pourtant ce personnage lui paraît constituer une menace. Comment savoir ce que chacun trouve au fond des jeux de l'autre ?
Et ça, c'est une intelligence artificielle qui
voilà,
l'a écrit.
Ça, c'est un programme qu'il a écrit.
Bravo.
C'est assez troublant, et surtout ouais. La question finale, comment savoir ? Parce que tout d'un coup, on entre dans le monde des émotions.
Alors, je dirais après, alors tout à fait, ça c'est un point important, après, il faudrait voir précisément quel a été le rôle des humains dans la rédaction de ce très beau texte.
Dans la programmation.
Ouais. Anne, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport au...
I'm really intrigued at the comparison of human new writers to a new writer of, say, a Mills and Boone romance. I think it was a really apt comparison that new human writers face exactly that same struggle. But interestingly, human writers write often go on to, they begin by imitating things, which is the place pretty much everyone starts. And then you begin to make your own voice. And I'm just wondering if an artificial intelligence began to make its own voice out of all those things, we may well not understand it. There will be no audience for it, right? And that's just, and sometimes that happens to human writers, right? You develop your own voice and it doesn't, so the role of the audience is super important. As you say, there's this text that seems random, but we get this feeling of emotion toward the end. It feels really resonant. And where does that come from? Does that come from the text, or does that come from our experience of the text, right? It's hard to separate those two. It's almost impossible to separate the two.
Ça vient de ce qu'on a aussi injecté dans la machine. Ce sont nos enfants, finalement. Et donc, ils s'expriment à leur manière, mais c'est nous qui traduisons aussi ce qu'ils nous disent.
Moi, au tout début là, de notre discussion, a été à un moment évoqué la question de savoir qu'est-ce que la littérature, et puis ça a été écarté. Mais je pense que, en fait, ça peut être une question intéressante. De la même façon, quand j'étais à l'université de Bristol, j'ai été amenée à travailler avec des psychologues qui travaillaient avec des roboticiens sur des gestes tout simples, donner une tasse de café, enfin des échanges. Et en fait, ce que m'expliquaient les psychologues, c'est que ça faisait progresser les roboticiens pour améliorer les capacités des robots. Mais pour eux aussi, c'était extrêmement intéressant parce que d'avoir à reproduire dans des machines, des gestes qui nous paraissent tout simples, ça leur apprenait aussi des choses sur la psychologie humaine. Et je pense qu'il peut y avoir, de façon générale, un effet pierre de touche, comme ça, hein, en imaginant dans des œuvres de fiction ou en essayant dans la réalité de faire écrire de la littérature à des machines, ça peut nous permettre de mieux comprendre ce que c'est que la littérature. Je me souviens d'une discussion passionnante que j'ai eue avec une collègue et amie sur notre conception à chacune de la littérature qui rencontre des grandes théories de la littérature qui ont dominé notamment le XXe siècle. On a quand même d'un côté des théories de la littérature qui sont des théories de l'émotion littéraire et qui pensent qu'il ne peut pas y avoir de littérature sans... Enfin, moi, je défendais la thèse que... pour comprendre un texte littéraire, il faut ressentir l'émotion et ensuite la retraduire en mots. Et elle défendait tout à fait l'inverse. Elle me disait inutile de ressentir quoi que ce soit quand on comprend un texte littéraire. Il suffit de comprendre la machinerie du texte littéraire. Et voilà. Donc je pense que. Et c'était un vrai débat sur la littérature.
Oui, c'est un débat, effectivement, qu'on va retrouver au fur et à mesure. Mais peut-être ce que je vais essayer pour rester avec nos machines, rappeler une définition qu'on peut retrouver dans un ouvrage savant d'Émile Benveniste, Vocabulaire des institutions indo-européennes, sur ce que c'est qu'un auteur. Non pas dans les débats philosophiques, c'est un philologue qui s'éloigne. Il dit un auteur, c'est celui qui écrit avec des pièces toutes faites. Et je crois, c'est excellent, c'est absolument merveilleux, ça va satisfaire à tout le monde. Et néanmoins, la machine accède au statut d'auteur, avec une définition pareille. Et dans ce cas-là, après, est-ce qu'elle, du coup, elle peut être auteur dans le sens noble du terme, à mon avis. Et ce qu'il dit, c'est très puissant, parce que ça va nous éloigner des débats métaphysiques, émotionnels, où on va injecter nos propres fantasmes ou préjugés, et pour rester avec une définition formaliste, qui aussi est juste, dans le sens équitable, je veux dire, vis-à-vis les machines ou d'autres auteurs, entre guillemets.
Mais en faisant encore un tour là-dessus, en fait, ce que tu parles sur la mécanique, c'est un peu d'essayer de retrouver des règles, il y aurait des règles de la littérature. Et ça me fait, à chaque fois, ça me fait penser, parce qu'il y a des manuels qu'on donne, enfin, que les auteurs veulent voir pour comment écrire, etc., qui sont toujours, à chaque fois, je déconseille, c'est une horreur, enfin bref. Et moi, je me souviens toujours, il y a une phrase de Somerset Maugham qui dit « Il existe trois règles pour la littérature, pour écrire un roman, malheureusement, personne ne les connaît. » Ce qui montre la faillite du processus.
Oui, mais alors justement, on pourrait dire que c'est les chercheurs en intelligence artificielle qui finiront par les trouver.
Non, parce que vous avez dit, je crois que c'est important, c'est-à-dire la discrétisation, que ça soit apprendre le mouvement, ça nous permet de revenir sur des choses qu'on connaît tellement bien qu'on n'a plus une certaine compréhension dans les détails, dans le déroulement, et du coup, cet aspect de retour vers comment apprendre à donner, servir une tasse de café, ça devient plus intéressant. Comme vous l'avez dit, c'est très bien, ça révèle quelque chose qu'on suppose qu'on connaît, mais en fait, c'est quelque chose qu'on a d'une façon un peu floue, plutôt que plus précise. Et avec, évidemment, la programmation, il faut être assez précis à un certain moment, parce qu'on ne peut pas commencer avec du flou.
Olivier ?
Oui, juste, je me pose une question quand même sur cette question-là de trouver des règles, parce que quand on compare avec le mouvement tendre une tasse ou chose comme ça, c'est un mouvement qui est reproductible, qui vaut finalement de toute éternité. Or, la littérature, enfin tous les arts en général, évoluent, changent. Donc, mettre une intelligence artificielle là-dessus, est-ce qu'elle ne va pas se figer dans quelque chose alors que le mouvement artistique fait que ça va évoluer et donc on ne va pas pouvoir trouver des invariants pendant un long temps parce que ça va être infini en fait, donc, le processus.
Je te dirais que les versions des logiciels évoluent beaucoup plus vite que les générations d'humains.
Il faut mettre l'évolution dans la conception de l'intelligence artificielle qui fera ça, quoi.
Il faut parler dans le micro.
Oui, la machine évolue aussi, elle n'est pas statique non plus, surtout qu'elle apprend et apprend assez vite. Alors après, ce qu'elle apprend, c'est une autre question. Mais elle évolue, elle n'est pas statique non plus.
Moi, je suis assez estomaqué par l'extrait que tu as lu. Si on pense en termes de test de Turing, pour moi, elle le passe sans problème. Quoi. Je suis incapable, avec le texte que tu as lu, de savoir si c'est un
mais il faut savoir
et s'il fallait parier, je parierais sur un humain plutôt que sur une machine.
Il faut savoir quelle sorte de programme, je veux dire, il faut s'agit, c'est ça ce qui est intéressant.
Parce qu'il y a de la concurrence, là, il faut faire un peu attention.
Oui, oui.
Après, est-ce qu'elle peut tenir la longueur sur un roman avec une intrigue? Ça, c'est peut-être le...
Il y a beaucoup de romans sans intrigue. On va retrouver des solutions pour la machine.
Le titre du bouquin était un roman inachevé, comme quoi la machine n'est pas arrivée au bout.
Mais ça ne résout pas la question de l'œuvre d'un auteur. C'est-à-dire qu'on a une œuvre, mais est-ce qu'on a un auteur? Ça, c'est deux choses différentes.
Ah, mais l'œuvre, c'est récent, historiquement. Il ne faut pas oublier, c'est le 19e, en gros. Avant, on ne parlait pas de l'œuvre de l'auteur, on parlait surtout d'écrivain, avant de parler d'auteur. Puis l'auteur est revenu, puis après on parlait de l'œuvre, c'est vraiment le 19e français dans ce cadre-là qui est très parti. Et aujourd'hui, on est en train de se poser des questions, faut-il continuer à parler de l'œuvre? Alors ça gêne beaucoup de gens, effectivement, mais néanmoins, je crois que historiquement, c'est très très récent.
Alors, C'est vrai que l'extrait est extrêmement intéressant. Je suis très heureuse en fait qu'on ait vraiment parlé de littérature, parce que je vais juste élargir avant de donner la parole au public. Mais en fait, moi je connais en fait déjà, peut-être vous aussi, pas mal d'exemples assez épatants, aussi épatants que celui que Claude Eken nous a lu, d'œuvres créées dans d'autres domaines artistiques. Hein, en musique, il y a des choses tout à fait épatantes. En musique, il y en a peu. Il y en a quelques-uns, il y en a peu. Et dans le domaine des arts plastiques, il y a déjà énormément de ce qu'on appelle parfois l'art robotique ou le robot art. Voilà. Donc il y a déjà beaucoup de... Et alors, ça pose toujours la question de la programmation. Mais c'est vrai qu'on pouvait avoir l'impression que de la manipulation du langage, finalement, posait, parce qu'il y a du sens, posait peut-être plus de problèmes à une machine pour produire quelque chose qui ressemble à la littérature. Milad, vous voulez ajouter quelque chose ?
Non, mais je suis d'accord avec vous. Il y a tous les arts numériques, surtout en dessin, en robotique, ça, il y a énormément de choses. C'est vrai, avec la littérature, c'est un statut très particulier. C'est un peu différent, c'est lié à notre rapport à la langue. Et là, je crois, on a d'autres difficultés d'accepter de la même façon qu'on accepte pour le dessin, par exemple.
Alors, il me semble, cela dit, bon, c'est vrai que l'art automatique... l'art produit par des machines existe, il est récent mais il existe. Je pense pour l'instant que ça reste de l'ordre du gadget, c'est-à-dire que on montre ces œuvres pour dire regardez à quel point les intelligences artificielles peuvent faire des choses épatantes. Et donc la question demeure, mais ça c'est peut-être juste l'avenir qui nous le dira, et ça rejoint la question que tu posais sur l'auteur, et peut-être que ce qui décide de ce qui fait la littérature, c'est la réception. C'est-à-dire, est-ce que on peut être séduit par un court texte ? Est-ce que on ira acheter ? Est-ce que on prendra de notre temps culturel de façon régulière ? Est-ce qu'on deviendra fan, amateur ? Est-ce qu'on fera des thèses sur l'œuvre d'un tel ou d'un tel qui est en fait une intelligence artificielle ? Il me semble qu'il y a un élément qui a été évoqué. Avec cette idée d'évolution qui est la problématique de l'insertion culturelle en fait de l'œuvre. Une œuvre fait sens, elle est, même si on single out, on isole les auteurs, en réalité les œuvres font toujours sens à l'intérieur d'un complexe culturel, sont toujours aussi l'expression d'une culture. Et peut-être à voir si les œuvres produites par des intelligences artificielles arrivent à faire sens de cette façon. Alors, il nous reste une dizaine de minutes, donc sauf si les auteurs ont d'emblée quelque chose à ajouter par rapport à ce que je viens de dire.
Oui, c'est un background culturel, mais on peut le donner, le background culturel à la machine. Il y a des machines à dessiner, vous voyez sur YouTube, qui peuvent faire votre portrait. Donc, ce n'est pas de l'art abstrait avec des couleurs, des traits sans signification, mais que l'on peut trouver harmonieux. Mais ce n'est qu'un travail à partir de l'ombre et de la lumière. Il y a différentes méthodes qui sont faites et on voit très bien une machine en train de dessiner. Ce qui est intéressant par rapport à la littérature, c'est que Ray Kurzweil, le gourou du transhumanisme, qui en plus est maintenant embauché chez Google pour faire à peu près tout ce qu'il faut pour la quête de l'immortalité et autres, qui était déjà quelqu'un qui avait trouvé une machine à traduire le langage des signes pour les sourds-muets, est en ce moment en train de travailler sur des machines qui pourraient comprendre la signification de l'écrit, le sens et le fonctionnement du langage. Il pense qu'on y arrivera vers 2029. Donc, quelqu'un comme Ray Kurzweil, qui a déjà travaillé sur ces questions-là, je ne sais pas si la date est exacte, mais je pense qu'on va quand même vers un ordinateur capable de faire de la littérature.
Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance ? Et oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est chargé de distribuer le micro ? Merci.
Comme disait Anne, ce qui compte, c'est l'audience.
Bonjour. Je voulais comparer, en fait, une œuvre, par exemple, dadaïste qui fait...
Plus près de...
Voilà. Une œuvre qui, par exemple, dadaïste qui fait volontairement aucun sens, qui est juste une juxtaposition de mots. Finalement, Google, n'importe quel logiciel, serait capable. Un simple ipsum lorem peut réaliser ça. Et donc, finalement... Si on est un public qui regarde cette œuvre sans forcément connaître l'auteur qui est derrière, sans savoir quelles sont les revendications, on peut avoir du mal, voire même être incapable de faire la différence entre cette œuvre, donc d'une intelligence artificielle qui n'est même pas intelligente finalement, ouais, et celle d'un auteur. Donc finalement, est-ce que la machine peut déjà faire de la littérature? Mais il y avait la question de l'auteur, est-ce qu'une machine peut faire une œuvre sans pour autant être un auteur? Parce que finalement, il n'y a aucune revendication qui est derrière, et le résultat est sensiblement, bah, finalement, identique.
Alors, you want to answer?
That's a really good point. You're absolutely right. Stuff that comes from text generators often looks a lot like Dada art, right? And since that art was in fact produced by humans, if you can't tell the difference, maybe it's the Turing test for literature, right? If you can't tell the difference between something written by a human or by a machine without any other context, that's a really interesting question, and I don't know the answer to it, but I really like that point.
Quelqu'un veut ajouter quelque chose?
Non, ce qui est intéressant dans la question, effectivement, c'est que ça soit surréaliste ou dadaïste, c'était à une époque où ça a été fait exprès volontairement pour contester une certaine forme rationnelle, établie, canonique. Alors, effectivement, c'était juste un certain moment très, très marqué. Effectivement, c'est pas la seule forme de littérature. C'est ça aussi qui est très important. Elle n'est qu'une forme dans un temps très, très précis. Et après, effectivement, la machine peut faire autre chose. La question, si vous voulez, si on veut des exemples difficiles, pourquoi quelqu'un comme Joyce, où il y a une surcharge de connotations, de complexité, de densité du texte, et là, on passe à un autre niveau, qui n'est pas celui qui peut être de la génération de permutation aléatoire ou non, mais plutôt d'essayer d'aller dans l'autre sens. Et là, ça doit être plus compliqué.
En fait, je pense que la question intéressante, enfin, pour aller dans le sens que vous dites et que Olivier Paquet suggérait déjà, que pose l'éventualité d'une littérature artificielle, c'est effectivement la question de l'auteur, mais en fait, c'est la question du message. C'est-à-dire, l'intelligence artificielle, tant qu'on n'a pas l'impression qu'elle est capable de saisir du sens, elle n'a en réalité rien à nous dire. Alors qu'on vit en général en tant que récepteur de l'art sur une modalité romantique qui est qu'on pense que l'œuvre est le véhicule d'un message et que l'auteur a quelque chose à nous dire et qu'on réceptionne. Voilà. Et c'est vrai que quand il y a cet élément-là qui semble absent, on reste peut-être un petit peu sur notre faim.
Après Dada, il y a une définition de la beauté par les surréalistes, par André Breton, qui a emprunté une phrase à Lautréamont, qui l'exprime très bien. Le beau, c'est la rencontre d'un parapluie et d'une machine à coudre sur une table de dissection. Ça peut paraître bizarre, mais c'est à ce moment-là que le récepteur va essayer de comprendre que ce que peut faire là un parapluie, une table de dissection, pourquoi sur une table de dissection, pourquoi une machine à coudre, et finalement c'est lui qui fabrique son histoire. Donc l'ordinateur peut très bien générer ce genre de phrase. Pour moi, la question importante à ce moment-là, c'est à qui vont les droits d'auteur.
Alors, je pense que votre remarque aussi me faisait penser à ce que des gens peuvent dire à propos de Picasso. De dire « Ah oui, mais une machine aurait pu le faire », c'est un peu la même chose que « Ah oui, mais mon enfant pourrait faire la même chose ». C'est automatique, c'est pas conscient, il n'y a pas vraiment de doctorialité et donc ça n'a pas vraiment de valeur. Olivier Paquet n'est pas d'accord.
Picasso, oui, mais c'est le problème du jugement. Quand on est peintre et qu'on regarde un trait de Picasso, les dessins de Picasso, on se dit qu'il faut avoir 40 ou 50 ans de métier pour arriver à faire ça. C'est juste là, c'est le problème de la culture, de bagage culturel du récepteur. Il y a aussi ça. Hein.
Une autre question, remarque?
Bonjour. Justement, je vais rebondir là-dessus sur ce que vous venez de dire, sur l'importance de l'audience et aussi quelle est la réception. Mais est-ce que vous ne pensez pas justement, je vais être un peu trash, si justement on peut accepter qu'une machine fasse sens, en tout cas produise un texte qui nous paraît sensé, ce n'est pas parce que simplement le récepteur, nous, l'audience, nous nous abêtissons un peu plus. Excusez-moi, je suis là. Donc, est-ce que ce n'est pas plutôt parce qu'on perd notre culture et que justement, une culture plus digeste ou au moins plus formaliste, formelle, dans le sens où c'est juste un ensemble de ritournelles, de recettes, peut justement prendre place et devenir légitime? Merci.
Ouais, bien sûr, c'est un des travers possibles, ce qu'on voit dans la société moderne. C'est idiot, c'est peut-être tout aussi trash. Moi, l'analogie que je fais, c'est avec le vin rouge, quoi. Tous les vins rouges ont le même goût maintenant, alors que c'était beaucoup plus varié auparavant. Et peut-être qu'il y a un risque, si on avance loin, mais on n'y est pas, hein, dans la direction d'avoir beaucoup de choses écrites par des ordinateurs, qu'ils écrivent tous la même chose. Mais pour moi, ce n'est qu'un risque. Et à mon avis, aujourd'hui, ça reste super intéressant pour voir ce qu'il en sort et pour faire des expériences, quoi.
Moi, je ne suis pas d'accord sur l'idée qu'il y aurait une évolution temporelle vers un abêtissement. La littérature facile a toujours existé. Donc, je veux dire, il n'y a pas. Et souvent, quand on regarde les succès littéraires au fil des siècles, il y avait des œuvres hyper faciles qui étaient des grands succès, alors que les classiques ne se vendaient pas autant. Donc, je veux dire, il n'y a pas de. Ce n'est pas propre à maintenant.
Oui, je pense que c'est un très bon point. It's really easy to look at our own society and say, look at all this terrible art that's being produced. And like 100 years ago, that art is all classic. Well, all the terrible stuff that was flooding everything 100 years ago is gone. We've forgotten it. And I don't think that's changed very much. So from our point of view, it looks like, oh, we're all unsophisticated and dumbed down. Really, it's just like it's always been, and fashions change, and change always happens.
Merci. Nous devons nous arrêter là. Donc, merci de votre attention. Merci aux auteurs pour cette discussion passionnante.